Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 mai. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Jérôme.
À la une de l'actualité ce matin, trois jours après la tuerie d'Uvalde aux États-Unis, le début au Texas de la convention annuelle de la NRA, le puissant lobby pro-armes, bien décidé à défendre ses intérêts. Les autres titres, Laurence.
Après le déluge de grêle dans l'Indre, attention aux faux couvreurs, ils tentent d'arnaquer les victimes des intempéries. Stopper l'hémorragie de médecins en Dordogne, une bourse de 10 000 euros offerte à tout étudiant en médecine qui s'engagera à s'installer dans la ville de Terrasson. Et puis au Festival de Cannes, c'est l'un des retours médiatiques les plus attendus après 10 ans de silence. Documentaire projeté hier sur Diams, la rappeuse des années 2000.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 précisément, un plateau spécial autour du 75e Festival de Cannes qui s'achève demain avec trois voix que vous connaissez bien. Laurent Delmas, Christine Masson et Corinne Pellissier seront avec nous. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, également député Modem des Hauts-de-Seine, candidat à sa réélection, Jean-Louis Bourlange. Vos questions pour lui dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. L'Amérique sous le choc après la tuerie d'Uvalde dans une école, 21 morts dont 19 enfants et 17 blessés. Les écoles du Texas sont en état d'alerte, d'autant que pas plus tard que mercredi, un drame a sans doute été évité. Un élève a pénétré dans un lycée de la banlieue de Dallas avec une arme semi-automatique. D'autres armes ont été retrouvées dans sa voiture, il a été arrêté à temps. Les armes, principales causes de décès chez les jeunes Américains, et comme après chaque tuerie de masse, ces Américains sont divisés sur le sujet des armes. 300 millions sont en circulation dans le pays. Au Texas, les parents sont pourtant blasés et ils continuent à défendre ce commerce mortel. Reportage de Thomas Arms.
Même à plus de 4 heures de route de Uvalde, les écoles de Houston sont en état de risque maximum. Les parents ont peur, comme Shelby Herman, qui vient de déposer son garçon de 4 ans.
J'ai failli ne pas emmener mon enfant ce matin, par peur. Je suis fatiguée de voir ces gros titres. À quel moment trop, c'est trop ?
À la question du nombre d'armes en circulation et aux moyens de faire face, la réponse des Texans est moins claire. Greta Wilson est psychologue en milieu scolaire.
Ce ne sont pas les armes qui tuent les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. Le problème, ce ne sont pas les armes. En fait, je ne suis pas surprise vu comment vont les jeunes. Il y a beaucoup de problèmes avec les enfants dans les écoles aujourd'hui.
Devant l'école élémentaire Haley de Houston, deux voitures de police. Le shérif fait sa ronde.
Dans l'école, les gens ont peur avec ce qui s'est passé. On est tous en état d'alerte.
Et en tant que shérif, que pensez-vous du contrôle des armes ?
On a notre deuxième amendement, vous savez.
C'est en vertu du second amendement de la Constitution américaine que depuis 2021, il n'y a plus de permis de port d'armes au Texas et qu'un jeune de 18 ans peut acheter deux fusils d'assaut AR-15 sans aucun problème.
Thomas Arms à Houston, on vous retrouve justement Thomas en direct, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc en direct de Houston au Texas et hasard du calendrier, c'est à partir d'aujourd'hui pour trois jours la convention annuelle de la NRA, le lobby pro-armes.
Alors oui, dès le lendemain de la tuerie, la NRA a refusé d'annuler le rassemblement, tout comme Donald Trump a refusé d'annuler son intervention. Très attaché au Texas, une terre très républicaine depuis 20 ans, et à la NRA qui lui a donné 35 millions de dollars depuis 2016. D'autres personnalités républicaines sont également attendues, comme le sénateur Ted Cruz. Par contre, dans la nuit, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a finalement choisi de retourner à Uvalde. Il sera avec la NRA, mais par le biais d'une vidéo seulement. Il essuyait de nombreuses critiques après avoir parlé du besoin d'union du Texas après la tragédie. La National Rifle Association, qui avait annulé son congrès l'an dernier à cause du Covid, attend aujourd'hui 50 000 membres et tous les fabricants d'armes à feu, tous, sauf l'entreprise Daniel Defense, fabricant de l'arme utilisée par le tireur Salvador Romas. Leur stand sur près de 6 hectares d'armes et de matériel, comme la NRA en fait la publicité, sera vide. L'armurier se dit dévasté par la tragédie qu'il qualifie d'acte du mal.
Et plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui à Houston. Merci Thomas Arms, vous étiez en direct de Houston aux États-Unis.
7h04 sur Inter en France, cet appel à la prudence des autorités dans le département de l'Indre.
Depuis les chutes de grêle dévastatrices et en particulier dans l'agglomération de Châteauroux, il pleut désormais des arnaques. De faux couvreurs sillonnent les rues, ils repèrent les toitures abîmées et proposent, pour évidemment des prix exorbitants, de bâcher les toits des escrocs qui visent en particulier les personnes âgées. C'est le reportage de Justine Claude de France Bleu Berry.
La méthode est bien rodée. Une camionnette blanche circule dans le quartier. Elle repère les maisons aux toitures endommagées par l'orage, comme celle de Sandrine.
Il s'est présenté venant de la part de la mairie de Châteauroux. Il me dit « Nous, on est là pour des bâches, parce qu'on voit que sur certains toits, c'est mal installé. » Quand je lui ai dit « Bah, vous voyez, il y en a une qui a déjà été installée. » « Oui, mais ça, on voit que c'est pas fait par un professionnel, donc sous-entendu, ça va pas être efficace, quoi. »
Si Sandrine ne tombe pas dans le panneau, son voisin, en revanche, se fait avoir. Au lendemain des intempéries, Gilbert laisse les faux couvreurs grimper sur son toit.
Eh ben, ils ont enlevé les tuiles qui étaient cassées, ils m'ont fait un grand trou, il y a un trou qui fait quoi, 4-5 mètres par 3 mètres. Hein. Puis voilà, ils ont enlevé tout ça, ils voulaient mettre des bâches, on voit qu'ils avaient l'habitude de faire.
Les escrocs lui réclament ensuite plus de 800 euros, c'est ce qui lui met la puce à l'oreille.
J'ai appelé l'OPAC, l'OPAC m'a dit que c'était pas ces gens-là qu'il fallait, quoi. Alors je les ai virés, mais le mal était fait, ils m'ont enlevé pas mal de tuiles arrière et puis ils m'ont tout débâché. Quoi.
Face à la hausse des arnaques, la police de Châteauroux tient à rappeler quelques conseils. Édouard Malice est le directeur départemental de la sécurité publique.
Nous, ce qu'on demande à la population, c'est de nous prévenir quand ils se posent la question de savoir est-ce que je dois payer 5, 6, 7, 8 000 euros pour la pose d'une bâche et est-ce que la personne qui est face à moi est un réel professionnel et qu'on puisse vérifier qu'ils sont de véritables entrepreneurs.
Autre conseil de la police, ne jamais verser d'acompte, c'est aux assurances de payer.
Les déserts médicaux, on ne va pas dans le mur, on est dans le mur, alertait il y a 4 mois une association de Dordogne. Les médecins partent à la retraite, ils n'ont toujours pas de remplaçant. C'est le cas de Terrasson, ville de 6 000 habitants à l'ouest de Brive-la-Gaillarde. Alors la commune a décidé d'agir. Elle offre une bourse de 10 000 euros par an à partir de la 5e année de médecine pour les étudiants qui s'installeront à Terrasson pendant au moins 5 ans. C'est le reportage de Paul Sertilange de France Bleu Périgord.
La situation est critique pour les médecins. Terrasson, c'est ce qu'affirme le docteur Mona Abouel Fadel, installé au groupe médical de la commune.
Les secrétaires se font incendier, insulter, menacer de mort. Non, c'en est là. Les gens sont à bout, en fait tout le monde est à bout. De nombreux médecins, moi j'entends, par moments j'en fais partie, dire on dévisse notre plaque, on peut plus quoi.
Une bourse pour attirer les futurs médecins, bonne idée selon elle, c'est aussi ce que pensent Claude et Sylvie.
Ça c'est très très bien, ça c'est super bien.
Ils se sont installés ici il y a 3 ans, impossible au début de trouver un généraliste.
Et puis là on a trouvé quelqu'un, mais à Aïe. Hein.
Une demi-heure pour y aller, un jeune qui s'est installé, qui a déjà plus de place. Donc voilà, on fait une demi-heure de route pour aller chez le médecin, heureusement qu'on n'est pas bien malade.
Il y a un problème qui n'a pas été anticipé, reconnaît le maire Jean Bousquet.
C'est vrai qu'avant, on n'y pensait pas trop parce qu'on avait assez de médecins. Mais on n'avait pas pensé que, comme tout le monde, ils vieillissaient.
À court terme, ça devrait aller.
Le groupe médical, ils sont 3. Il y en a un qui arrive en septembre, ça fera 4. Il y a encore quelques médecins installés. On devrait pouvoir passer le cap.
Et sur le long terme, il y a cette bourse.
On a peut-être déjà 2 candidats. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des gens du coin.
Le futur médecin qui signe devra rester 5 ans, voire plus, si affinité.
Et comme il se plaira, j'ai aucun doute qu'il restera.
Et je dirais, venez chez nous, c'est merveilleux.
Voilà pour ce reportage en Dordogne. La campagne des législatives qui se poursuit, on s'intéresse, Laurence, à ce duel à 3.
Ça se passe dans la 5e circonscription de l'Essonne, autour du plateau de Saclay. Une bataille qui se prépare entre Cédric Villani, le mathématicien ancien marcheur devenu écologiste, et Paul Midi, le directeur général de l'REM. Antoine Gignot est allé à leur rencontre. Le candidat de la majorité était hier en campagne à Gif-sur-Yvette.
Bonjour monsieur, bon midi, je suis le candidat d'Emmanuel Macron pour les élections législatives.
Candidat et directeur général de La République En Marche, c'est l'alignement derrière le projet présidentiel qu'il met en avant.
C'est ça que je porte.
Même lorsqu'au milieu des maisons en meulière, les habitants l'interpellent sur le volet social.
Il faut qu'il ait conscience un peu de ce que c'est que la France.
Bon, ouais, ouais. Bah, ça sera la première loi qui passera à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur le pouvoir d'achat, le paquet social. Il faut que personne soit laissé au bord du chemin. Ce qui est important, c'est de bien clarifier l'enjeu de cette élection. Je suis le candidat d'Emmanuel Macron. Cédric Villani, c'est le candidat de Jean-Luc Mélenchon.
Cédric Villani, le député sortant, élu avec les marcheurs, a quitté, lui, la majorité en 2020 pour rejoindre les Verts.
Comment un mouvement peut dire qu'il va apporter la grande transition écologique quand il a voté pour le retour des néonicotinoïdes, écraser les propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Qui a travaillé sur l'écologie à l'Assemblée et dans le programme? C'est nous.
Pour convaincre, Cédric Villani parle de la nécessité de protéger les terres agricoles du plateau de Saclay. Le combat de toujours, de Michel Bourna.
C'est un enjeu essentiel de maintenir ce poumon vert, le développement de la ville et puis le respect de la nature et du cadre de vie auquel les uns les autres sont légitimement attachés.
Le maire LR de Gif-sur-Yvette s'appuie pour sa campagne sur son ancrage local.
Antoine Gignot, premier pays frappé par le Covid-19 début 2020. La Chine avait été le premier à sortir de la crise. Mais Pékin a voulu appliquer sa politique zéro Covid à Omicron et là, la deuxième économie du monde n'a pas résisté aux très sévères nouvelles restrictions sanitaires, le Premier ministre a été contraint de reconnaître que la situation était aujourd'hui pire qu'au plus fort de l'épidémie en 2020. Un discours tellement négatif qu'une partie du contenu a même été censurée sur les réseaux sociaux. Le chômage augmente, les exportations diminuent et surtout la consommation est en chute libre. Sébastien Berriot.
Dans cette famille de Pékin avec deux enfants, le train de vie a changé depuis la reprise d'épidémie en mars. Les revenus ont diminué et la famille consomme désormais beaucoup moins, explique le père.
Ce n'est pas comme avant. Et donc nous faisons plus attention à nos dépenses. Avant l'épidémie, j'achetais des choses en ligne. Maintenant, j'ai arrêté car je ne sais pas quand l'épidémie va se terminer.
Dans la grande rue commerciale du quartier Wanfujing, les magasins de luxe sont fermés. Mais de toute façon, avec les restrictions sanitaires, les clients n'ont pas vraiment besoin de consommer, selon cette Pékinoise.
L'épidémie a affecté les dépenses liées au voyage. Les vêtements aussi. Je n'en ai plus vraiment besoin car je ne participe plus à beaucoup d'activités. Le plus loin que je puisse aller, c'est autour de Pékin, donc les habits que j'ai déjà me conviennent.
La consommation interne, c'est depuis longtemps le point faible de l'économie chinoise et avec les confinements de ville, le phénomène va s'aggraver pour Dong Chao, économiste spécialiste des questions de consommation.
Les gens sont plus prudents. Ils mettent de l'argent de côté, l'épargne dans les banques augmente et cela fait baisser la consommation.
Les gouvernements locaux multiplient les mesures pour aider à la reprise de la consommation. À Shenzhen, par exemple, une aide publique de 1400 euros est accordée à tout habitant qui achète une voiture électrique. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Elle a incarné le rap français des années 2000. Retour virtuel à Cannes pour Diams.
L'ancienne chanteuse s'est adressée virtuellement à ses fans et à tous ceux qui assistaient à l'avant-première de son documentaire Salam au Festival de Cannes. 1 million d'albums vendus, une dépression, une conversion à l'islam et depuis une vie discrète aux Émirats Arabes Unis. L'interprète de La Boulette a tourné la page définitivement de cette vie d'artiste et elle se livre dans ce documentaire confession qu'elle co-réalise. Une réalisation sans grand intérêt, mais le témoignage est touchant, Delphine Evenou.
Mélanie Diams a eu carte blanche pour ce film. Pas de contradicteur, elle a saisi l'opportunité pour se réapproprier son récit. Raconter déjà et en détail la souffrance de ses années de célébrité, la perte de sens, la solitude.
Mais je perdais la tête de plus en plus. Je prenais des cachets de plus en plus.
Médicaments, internement, tentative de suicide, jusqu'à ce qu'elle prie, un jour, par hasard, le début de sa découverte très intime de l'islam, la violence aussi de la société qui découvre son voile sur une photo volée alors qu'elle se cherche encore. Diams cite Dieu, raconte la beauté de la création, promeut un orphelinat qu'elle finance au Mali, sans intention de prosélytisme, assure Anne Cissé, co-réalisatrice.
Ce qui était important pour Mélanie, c'est de raconter son histoire, de mettre un point final, pas d'être un porte-parole. Ça, c'est quelque chose, elle était très claire dès le début. Même quand elle était Diams, on l'a présentée en tant qu'icône de féministe, politique, etc. C'est pas des choses qu'elle a choisies et aujourd'hui encore, c'est pas quelque chose qu'elle choisit. Elle décide pas d'être la porte-parole ou la représentante d'une communauté ou d'une autre. Elle a surtout envie de véhiculer un message de paix.
Le résultat, c'est un témoignage sans phare, sincère et apaisé, malgré une mise en image un peu lourde et l'impression d'avoir enfin reçu des nouvelles d'une vieille amie perdue de vue.
Delphine Evenou, Salam, c'est les 1er de juillet au cinéma et sur Brut à la rentrée. En septembre, enfin, la disparition à l'âge de 60 ans d'Andy Fletcher, le membre fondateur du groupe Depeche Mode, le groupe des années 80, groupe britannique. Just Can't Get Enough, on s'en souvient, ça restera l'un des plus grands tubes du groupe. On en reparle dans le journal de 7h30.
Merci à vous, Laurence Thomas, pour ce journal. Dans 3 minutes, secret d'info, le poids réel des cabinets de conseil.